Bonjour à tous, je mets le micro comme ça vous m'entendrez bien. Merci beaucoup Madame Poussard. Vous m'avez invitée aujourd'hui pour parler des compétences. Donc nous allons parler des compétences, mais de manière simple. Parce que des fois ça casse la tête. Il y a des chercheurs qui ont travaillé toute leur vie sur le concept de compétences. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc nous allons ici simplifier les choses pour que tout le monde comprenne et que ça ne fasse pas fuir. Voilà, c'est l'objectif. Alors, je suis Laetitia Gérard, docteur en sciences de l'éducation et consultante internationale. Je suis à mon compte, je travaille sur tout ce qui concerne l'enseignement supérieur, que ce soit la qualité des cursus, la pédagogie universitaire, ou tout ce qui est le suivi et évaluation de projets d'innovation pédagogique, par exemple. Bonjour. Alors j'ai un site internet, bon, c'est un peu flou. J'ai un site internet dans lequel je répertorie quelques articles simples sur des articles de pédagogie universitaire, comment mettre en place les jeux de rôle en amphi par exemple, comment faire voter les étudiants, etc. Donc c'est des petites fiches pratiques que l'on peut mettre en place dans sa classe très facilement, appuyées par des recherches. Donc ça s'appelle coopération universitaire, vous tapez coopération universitaire Laetitia Gérard et vous tombez sur le site. Alors voici les objectifs d'apprentissage de cette séance. Vous serez capable d'expliquer à la fin de cette heure et demie ce qu'est une compétence. Vous serez capable d'expliquer comment développer la compétence, comment l'évaluer, comment mettre en place l'APC dans une version simplifiée. Et ce qu'est l'alignement pédagogique, parce que ça fait partie de l'approche par compétence. Alors commençons par le commencement. Approche par compétence, qu'est-ce qu'une compétence? Donc là, je vais vous demander de réfléchir en binôme ou trinôme sur qu'est-ce qu'une compétence, selon vous. Voilà, je vous laisse quelques instants pour réfléchir, essayez de vous mettre par deux ou par trois. Donc ceux qui sont isolés peuvent peut-être se rapprocher.
Normalement, au moins d'habitude, on dit instantanément avoir la
réponse. D'accord.
On dit quelqu'un qui est compétent.
Ouais.
Ça ne dit pas comment le rendre compétent.
C'est un ensemble de savoir et de savoir-faire et de savoir-être.
Ensemble de savoir, savoir-faire, savoir-être. D'accord. Alors, vous avez parlé de complexe. Savoir, savoir-faire, savoir-être. Je me disais, c'est une qualité. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Oui. Quand on dit la compétence, une compétence sur quoi?
D'accord.
Ça suppose une certaine autonomie d'individu par rapport à la tâche.
Une autonomie?
Oui.
Oui, d'accord. Autonomie.
Savoir mobiliser les savoirs, les savoir-faire pour répondre à un problème.
Oui, donc la mobilisation.
De savoir les combiner.
Mobilisation.
Pouvoir c'est agir, c'est une action.
Agir, d'accord, oui, action, tout à fait.
Finalité.
Finalité, oui.
C'est un peu le contraire d'une action, de l'agir.
C'est une action. Une méthodologie autonome. Avoir une méthodologie d'approche.
Méthodologie. Ok. Et autonomie.
C'est déjà écrit.
C'est quelque chose qu'on peut mesurer. C'est quelque chose qu'on peut mesurer.
D'accord, oui. Donc mesurable.
Supposément.
Spécifique.
Madame.
On ne peut jamais l'avoir directement.
C'est-à-dire
qu'en fait,
c'est pas inné, certes.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, on voit la performance, mais on la voit jamais directement, la compétence. On peut que en déduire qu'il y a la compétence en regardant la pub.
Si, si, mais je cherche le mot.
Non
observable.
Pas directement.
Oui, dans ce cas, est-ce que c'est plus mesurable alors?
C'est la performance qui est mesurable. La compétence
qui est la mesure. Donc, performance. D'accord, madame.
La notion de temporalité, elle est variable dans le temps.
Oui, donc elle évolue. Voilà. Le temps, d'accord.
Il y a des compétences.
Alors attendez, le groupe là.
La compétence, c'est ce qui permet de rendre la connaissance opérationnelle.
Donc l'opérationnalisation.
Autres niveaux de compétences et chaque autre niveau de compétence jusqu'à l'objectif pédagogique peut-être des niveaux de précision
d'accord
l'échelle ouais
échelle
oui, bien échelle
d'accord ouais ok. On a épuisé toutes les définitions. Transférable.
Modulable.
Modulable, dans quel sens?
Par rapport à un savoir qui pourrait être assez vite, une compétence peut s'adapter.
D'accord, ouais.
Intemporel.
Modulable.
Ça rejoint l'idée de la temporalité aussi, c'est ça? Ça se module dans le temps? Oui.
Ça a quand même un aspect invariant, vu que c'est pour la compétence, on va pouvoir agir dans des situations qu'on a ouvertes. Donc ça a quand même un caractère un peu fixe.
Est-ce que ça ne rejoint pas l'aspect mesurable? C'est ce que vous dites.
Du coup, ça peut être une compétence qui nous sert
ça rejoint aux différents types là. Est-ce que vous voulez qu'on ajoute un mot par rapport à ce que vous dites?
Évolutif.
Oui, ça rejoint un peu la temporalité. Madame, on terminera avec vous.
Il y a une, peut-être une notion aussi de volonté d'universalisation des compétences.
Universalisation des compétences?
Dans le sens où c'est l'individu qui la possède, mais on la définit pour plusieurs individus. Ce n'est pas une compétence liée à un seul individu, ça peut être une compétence qui est partagée par plusieurs individus.
Ok. Donc je mets votre mot, hein. Universalisation. Alors, on va s'arrêter là pour le brainstorming. Donc, bon, globalement, il y a des choses très intéressantes et vous avez globalement ce qu'est, vous savez globalement ce qu'est une compétence. Il y a quelques petits trucs qui manquent, mais disons l'aspect complexe, mobilisation des ressources, l'agir, la temporalité, l'autonomie, etc. Bon, différents types aussi. Tout ça font effectivement partie des compétences, de la compétence. Quelle différence faites-vous, monsieur, entre la compétence et une compétence, vous disiez tout à l'heure?
Quand on dit de quelqu'un qu'il est compétent, c'est une qualité, mais je ne pense pas que ça... Ça force le discours, parce que quand on parle avec des gens de compétences, c'est la notion de qualité est présente en arrière-fond et fait que on le prend comme une évaluation de la personne dont on veut évaluer les compétences.
D'accord.
C'est les compétences qu'on cherche à évaluer et pas la compétence de la personne et
d'accord.
La qualité de la personne.
Ok, d'accord, je comprends mieux. Alors là, je vais vous proposer une définition. Alors il y en a plein, hein. Comme je vous ai dit, il y a des chercheurs qui ont travaillé toute leur vie sur le concept de compétence, notamment Jacques Tardif, hein, que vous connaissez certainement, un Québécois. Alors lui, il propose une définition qui est communément admise par la société, les sciences de l'éducation. Je vous la donne ici, et puis on va la décortiquer pour essayer de la comprendre. Parce que la définition aussi est un peu complexe. Une compétence est un savoir-agir complexe. Donc vous l'aviez, hein, agir complexe. Prenons appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes. Vous l'aviez ici, hein, mobilisation, savoir, savoir-faire, savoir-être, opérationnalisation, etc. À l'intérieur d'une famille de situations, vous parliez de différents types. Alors, on va décomposer cette définition pour essayer de la comprendre. Et mon micro qui est bizarre quand je le mets là. Alors, premièrement, une compétence est un savoir agir. Vous avez noté la définition parce qu'on va la reprendre. Ou la prendre en photo, hein, comme on fait maintenant. C'est bon ? Mais comme je vous dis, il y a d'autres définitions, vous pouvez vous appuyer sur d'autres définitions. Je suis en train de vous dire, choisissez absolument celle-là. Il n'y a pas qu'une manière de mettre en place l'approche par compétence, il n'y a pas qu'une manière de définir la compétence, etc. Donc tout ce que je vais vous raconter ce matin, c'est pas faites ceci, faites cela, c'est voyez ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, vous piochez ce qui vous va. Alors, c'est un savoir agir, c'est-à-dire en action, en situation, ce sont les gestes professionnels auxquels vous voulez former vos étudiants. Donc ça, c'est une première chose. C'est dans l'action. Deuxième chose, c'est un savoir agir complexe. Comme vous le disiez tout à l'heure très bien, c'est complexe parce que l'individu va mobiliser des ressources variées et nombreuses. C'est complexe également parce que l'individu va être face à une situation problème qu'il ne connaît pas. Comme vous le disiez très bien tout à l'heure. Ah, un petit saut d'image.
Situation problème.
Situation problème. Alors, comment je vais m'adapter? Suis-je compétente? Tout à fait.
En changeant de diapo,
peut-être. Je mobilise les ressources.
C'est midi, donc c'est midi.
Je change l'ampoule.
Oui, fonctionne.
Non, l'ampoule est bonne.
En tapant sur une touche, non ça...
Ah bah, peut-être.
On prend le téléphone et on téléphone aussi.
Oui, bon, il y a plein de ressources possibles. Hein. On va déjà commencer par les ressources simples. Je crois que l'ordi est éteint.
Est-ce qu'il a assez de batterie?
Il est branché.
Est-ce que la multiprise est allumée?
Ah oui, ça c'est bien aussi. Il est éteint. C'est ça? Alors, la compétence, nous étions en train de dire que c'est un savoir agir complexe, donc complexe dans le sens où l'individu se retrouve face à une situation problème qu'il ne connaît pas. Comme ce que nous venons d'expérimenter à l'instant. Face à cette situation problème qu'il ne connaît pas, l'individu va mobiliser des ressources externes, les pairs, l'espace, la temporalité, les livres, Internet, etc. Et des ressources internes, savoir, savoir-faire, savoir-être, vous l'avez très bien mentionné tout à l'heure. Alors comment il va savoir quelles ressources mobiliser? Premièrement, il va identifier le problème. Par exemple, il s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de triches aux examens à cause des smartphones. Donc ça, identification du problème. Donc là, il va un petit peu réfléchir, il va solliciter ses collègues. Tiens, toi, comment tu fais? Il va regarder dans les ressources administratives, qu'est-ce qui se passe en cas de fraude, etc. Il peut lire aussi des petits articles sur Internet sur comment on fait pour limiter la fraude. Et tout ça, il va les utiliser pour les transférer et les mettre en œuvre. Alors, la définition aussi parle de situation, de famille de situation. Je rappelle la définition. La compétence est un savoir-agir complexe, prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situations. C'est-à-dire que l'individu compétent n'est pas celui qui va maîtriser une situation qu'il connaît déjà, faire un créneau dans un parking vide, c'est bon, je sais faire, ça ne fait pas de moi quelqu'un de compétent. Celui qui est compétent, c'est celui qui est capable de s'adapter à une situation qu'il ne connaît pas, une situation problème qu'il ne connaît pas, mais du même niveau de complexité que ce qu'il connaît. C'est là où on parle de famille de situation. Par exemple, conduire une voiture en ville, le même niveau de complexité, ce serait conduire avec des parcours différents, densité de circulation différente ou à des horaires différentes. Ça, c'est de la même complexité. Maintenant, on ne va pas demander à l'individu de conduire un camion. Là, on n'est plus du tout dans la même famille de situation. Je vous donne un autre exemple. Produire un rapport de synthèse à propos d'un problème d'intégration des jeunes dans le système éducatif. Bon, pour voir s'il est compétent, on va lui proposer des situations de même niveau de complexité Donc, par exemple, on peut lui demander de faire un rapport sur les jeunes dans l'enseignement secondaire, l'accès aux jeunes à l'université. Mais on ne va pas lui demander un rapport sur les maladies infantiles au Québec. Là, on sort du champ des familles de situation. Donc, la compétence est contextualisée. Ça, c'est très important. On est compétent lorsque l'on maîtrise une situation problème inédite que l'on n'a jamais rencontrée. Et la compétence, on parlait de mesurable, évaluable, etc. C'est pas moi qui vais dire si je suis compétent. C'est quelqu'un d'autre qui va dire si la personne est compétente. On ne peut pas se juger compétent ou non compétent dans quelque chose. C'est une instance extérieure, un enseignant ou une autre personne qui va le juger, qui va juger de la pertinence de la tâche acquise, et puis du niveau de compétence. On a parlé aussi de niveau, c'est tout à fait ça, oui. On peut s'auto-évaluer, mais il va falloir quelqu'un qui réévalue derrière, ouais, pour s'assurer. Mais bien sûr, on peut s'auto-évaluer, notamment via les portfolios de compétences. Mais il y a forcément quelqu'un avec un œil extérieur qui va évaluer derrière s'il a bien auto-évalué. Alors, je vous simplifie encore la tâche. Ici, c'est une définition de Sacha Kiefer qui a fait sa thèse et qui l'a soutenue il y a deux ans sur les compétences des enseignants-chercheurs, les compétences d'enseignement des enseignants-chercheurs. Et lui, il propose une version encore plus simplifiée de la définition de la compétence. Il dit que c'est une aptitude à mobiliser de manière pertinente un ensemble de ressources appropriées de manière à traiter une situation avec succès, une situation problème. Et ici, je vous montre un peu la différence entre savoir-faire, savoir et compétence, parce que souvent on a tendance à dire mais une compétence, c'est un savoir-faire. Est-ce que, où on entend souvent, mais oui, mais pour nous les savoirs c'est très important et les compétences ça dénature les savoirs. Non, c'est un briquet, hein, on l'a dit, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on mobilise, c'est une ressource, la connaissance c'est une ressource de la compétence. Il n'y a pas de compétence sans connaissance. Donc là le savoir ce serait la caisse à outils, bon, j'ai tous mes outils, le tournevis, la pince, etc. Le savoir-faire, bah oui, je sais visser... une vis, hein. Je pense que nous savons tous ici visser une vis. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Maintenant, en situation face à un meuble Ikea, là c'est autre chose. Un autre exemple, savoir le code de la route. Savoir faire, je sais passer les vitesses, je sais qu'il faut passer les vitesses, voilà la première, on commence par la première, la deuxième, je sais faire des créneaux, bon quand il y a beaucoup de place. Mais conduire, c'est une compétence, c'est autre chose, c'est la mise en situation, c'est des situations inédites à chaque fois, c'est jamais la même chose. Alors, on parlait de différents types de compétences. Effectivement, il y a différentes typologies de la compétence. Il y a des compétences communicationnelles, hein, tout ce qui est faire passer un message, communiquer sur un sujet, s'exprimer, argumenter. Les compétences organisationnelles, échéancier, gestion du temps, toutes ces choses-là, disciplinaire, bon là c'est propre à la discipline, ça va être par exemple l'étudiant de médecine qui va mobiliser ses connaissances en anatomie, et puis toutes ses expériences sur le terrain, les discussions qu'il a eues avec les familles, etc. Réflexive, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'autoréflexion, la réflexivité sur sa pratique. Est-ce que là, c'était une bonne solution ou pas une bonne solution ? Personnelle et humaine, on parlait de qualité tout à l'heure. Là, c'est exactement ça. C'est chacun a des qualités qui sont propres à la personne. Créativité, innovation. Et les compétences relationnelles, tout ce qui est bon, leadership, capacité d'écoute, etc. Maintenant, il faut bien savoir que c'est pas possible d'avoir une compétence qui soit uniquement organisationnelle, uniquement communicationnelle. Elles sont toutes imbriquées les unes dans les autres. Donc on ne peut pas dire je vais favoriser chez mes étudiants le développement de la compétence relationnelle. Ce n'est pas possible. Ça va forcément être imbriqué avec d'autres aspects. Alors pourquoi l'approche par compétence? Bon, là c'est un petit rappel, je ne sais pas, vous connaissez l'ENCA? Non? Non. Vous ne savez pas pourquoi on vous oblige à mettre en place l'approche par compétence? Alors, suite à Bologne.
Pardon?
Oui. Non, non. Pas du tout. C'est juste pour savoir si je détaille ou si je passe. C'est tout. Alors, suite aux conférences, la conférence de Bologne et notamment la conférence de Bergen, ministérielle à Bergen, ils ont mis en place l'ENCA, l'Agence qualité européenne d'enseignement supérieur. Et l'ENCA a donné naissance à des agences qualité nationales que vous connaissez très bien là, cette fois. Agence qualité de l'enseignement supérieur qui est l'HCRS, la CAES en Belgique, la AQ en Suisse, etc. Dans les lignes directrices de l'ENCA, donc il y a un rapport, il y a un document qui dit, voilà, maintenant l'enseignement supérieur, c'est ça. Voici les missions. Il faut arrêter d'enseigner de manière traditionnelle, pédagogie active, etc. Tout ça, c'est dans le cahier. Et c'est aussi marqué que l'une des missions de l'université maintenant était de favoriser l'employabilité des étudiants. Donc, tout naturellement, découle l'approche par compétences. L'approche par compétence, il ne faut pas le voir comme un ennemi. Hein. C'est simplement, comme je vous disais, c'est cohérence et collaboration, hein, tout simplement. Après, il y en a qui vont vous vendre de l'approche par compétence ultra complexe qui dégoûte complètement. Je me rappelle au Niger, ils avaient fait venir un grand nom des sciences de l'éducation pour les aider à mettre en place l'approche par compétence. Il m'avait demandé de regarder, donc la personne avait fait un didacticiel, bon, déjà qui était vachement épais. Et ils avaient commencé à rédiger dans le didacticiel, donc à remplir les trous, à remplir le tableau. Et ils m'ont demandé de regarder pour voir s'ils avaient bien rempli. Mais moi, ça m'a donné mal à la tête. Hein. J'ai rien compris. C'était trop compliqué. Et je me suis dit, mais les pauvres, comment ils vont remplir ça? Enfin, pour moi, je trouve ça dégoûte les enseignants. Je veux dire, tout le monde n'est pas en sciences de l'éducation et passionné de tout ça. Quand vous avez autre chose à faire, que vous travaillez sur vos propres recherches et que vous avez d'autres soucis, voilà, il faut quelque chose de rapide, de light et d'efficace. Et ça, j'ai rencontré ailleurs aussi. Hein, la UF a fait... alors, Arnaud, t'as lu les pavés de la UF? La UF a fait 5 pavés comme ça sur l'approche par compétences. J'ai pas pu en lire 2, quoi. C'est trop compliqué. Alors, donc, vous l'avez compris, il y a des exigences ministérielles, européennes, etc. Mais il y a aussi, ce que je rencontre sur le terrain, c'est aussi un besoin des enseignants. Là, je voulais vous faire part d'une recherche que j'ai menée récemment à l'Université de Paris. Ils m'ont recruté pour évaluer l'impact d'une innovation pédagogique. Les enseignants en avaient marre, justement. Ils avaient l'impression que leur métier avait perdu de son sens. Ils se rendaient compte que les étudiants... étaient passifs en cours, participaient peu, ils travaillaient peu chez eux, voire pas du tout, hein, on connaît le bachotage. Ils apprenaient en surface, hein, je prends des notes, j'apprends par cœur la veille de l'examen, je récite. Qu'est-ce qui reste après ? Il n'y a pas de transférabilité sur le monde dans le monde du travail ou dans les autres, même dans les autres cours. D'un cours à l'autre, ils n'utilisaient pas ce qu'ils avaient appris. Faible rentabilité, voilà. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression de transmettre des connaissances et finalement, ça n'aboutissait pas à grand-chose. Donc ces enseignants-là avaient un peu perdu le goût de leur métier et n'en comprenaient plus le sens. Ils se disaient « mais à quoi ça sert d'enseigner puisqu'il ne reste rien ?» Comment faire ? Les étudiants ne sont pas impliqués. Donc ils ont voulu tester la pédagogie inversée, classe inversée, que vous connaissez certainement. Oui. Donc 10 enseignants ont testé ça pendant une année. Et j'étais chargée de voir un peu ce que ça donnait, quoi. Est-ce que ça avait eu un effet positif, négatif sur les étudiants. Bon, on peut parler des résultats après, hein. Mais l'idée ici, c'était plutôt de vous montrer que les enseignants aussi se questionnent sur la pertinence de cette manière de faire, hein, lorsque c'est de manière magistrale. Donc l'approche par compétence est une réponse aussi à ça. Parce que lorsqu'ils mettaient en place la pédagogie inversée, on changeait complètement de paradigme. En classe, les étudiants étaient actifs, ils travaillaient sur des situations problèmes, des jeux de rôle, des études de cas, etc. Donc là, on développait des compétences. Alors bien sûr, pour mettre en place l'APC, pour que l'université fleurisse dans ce sens, il y a de nombreux défis encore à relever. Quand je vois ce genre d'amphi, je me dis qu'il y a encore du boulot. Oui, des neufs. Aux États-Unis, il y a des amphis en îlot. Tout le monde est sur le même niveau. Et vous avez des grandes tables et les étudiants sont autour. Bon, après, ce n'est pas le même objectif. Hein. C'est la pédagogie active, ce n'est pas la transmission des connaissances. Si on veut vraiment transmettre, ce genre d'amphi, c'est très bien. Tout le monde entend bien, tout le monde voit bien, etc. Donc ça dépend aussi des objectifs. Alors bien évidemment, pour mettre en place l'approche par compétence, il faut que les acteurs soient impliqués. Alors les enseignants, mais aussi les étudiants, parce qu'ils vont évaluer le dispositif, mais aussi les professionnels, qu'on va intégrer, on verra de quelle manière tout à l'heure. Il faut un accompagnement des enseignants dans l'approche par compétences, des moyens et des ressources. Dans certaines universités, je vois, c'est écrit sur la porte, surtout ne bougez pas les tables et les chaises. Ça, c'est grave, quoi. Donc il y a déjà au niveau des ressources, de l'espace, utilisation de l'espace, vous connaissez les chaises NOD. Ouais. Les chaises NOD. C'est les chaises qui roulent. Donc vous êtes sur votre chaise, il y a une table, et elle roule. Donc, vous pouvez organiser votre salle de classe comme vous voulez. Tantôt, les étudiants vont être en cercle, tantôt en groupe. Donc, c'est très maniable et facile à déplacer. C'est les étudiants qui se déplacent, un peu comme un vaisseau spatial, comme ça.
C'est motorisé ?
Non. Mais ça, il faudrait déposer le brevet. Et je sais que dans plus en plus dans les universités, ils mettent en place des salles spéciales pédagogie active dans lesquelles il y a des chaises NOD, notamment à Paris, à l'Université de Lorraine, etc. Et bien sûr,
c'est pas descendu dans le sud, hein.
Ça va arriver. Ils en ont demandé ?
Oui.
D'accord. Oh, c'est bien. Et bien sûr, il faut la valorisation et la reconnaissance de tout ce travail qu'on vous demande en plus. Voilà, la recherche dans tout ça. Vous êtes évalué que sur la recherche, et on vous demande de vous investir dans la pédagogie. Bon, va falloir commencer à valoriser votre investissement dans la pédagogie. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors, je regarde l'heure. Nous avons perdu du temps avec la situation problème. Ok, donc on va continuer. Comment formuler une compétence ? Verbal infinitif, objet de l'action, contextualisation. Je vais vous donner quelques exemples. Pour prendre des photos. Hein. Verbal infinitif, objet, contextualisation. Oui. En général, oui. Comme ici. Hein. Par exemple, exercer son rôle et ses missions au sein de la structure. Alors, on peut rajouter des éléments qui expliquent encore, qui contextualisent davantage avec un gérondif, hein, en adoptant une posture professionnelle, en respectant des principes éthiques, etc. Mettre en œuvre un projet d'intervention dans le domaine des APS en mobilisant les modèles théoriques ou conduire une voiture en ville, hein, c'est aussi une compétence. Alors, comment développer la compétence ? Pour pouvoir développer la compétence de vos étudiants, il faut nécessairement que l'activité intègre, combine et mobilise des ressources variées, comme on l'a vu, hein, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, et des ressources externes, pas que internes. Il faut que ça leur permette d'appliquer les connaissances qu'ils ont acquises, mais pas seulement les connaissances d'un cours, mais les connaissances antérieures et les connaissances de d'autres cours. Il faut que ce soit une activité qui propose une situation authentique complexe, donc une situation qu'il n'a jamais connue, mais de même niveau de complexité que ce qu'il connaît, bien évidemment. Que ça soit transférable dans divers contextes, que ce soit professionnel, vie personnelle, dans les autres cours, etc. Qu'il y ait une production, on ne développe pas une compétence comme ça. Il faut qu'il y ait une production, qu'il produise quelque chose, un rapport, un texte, un document, un robot, une musique. L'autonomie, vous en aviez très bien parlé tout à l'heure, et que ça favorise l'autoréflexion, c'est-à-dire que lui, ça lui permette de se poser des questions. Ah tiens, est-ce que là, ma manière d'apprendre est bonne ? Alors, à votre avis, quelles seraient les activités qui permettraient de développer la compétence ?
Situation.
Comment ? Jeu de rôle ?
Projet.
L'évaluation par les pairs, c'est pas une activité en soi. Là, on est plus sur l'évaluation. Oui, projet tutoré. TD, bah, ça dépend de ce qu'on fait dedans. Vous pensez à quoi ? Comment ? D'accord, ok, d'accord. Dans ce cas, ça peut fonctionner. Débat ? Ouais ? Quoi d'autre ? Oui, c'est pas une activité en soi, mais c'est une modalité, ouais. Mais c'est une très bonne modalité. L'approche par tâche, c'est quoi ?
Task-oriented, bah, c'est en langue. Mm-hmm. On fait, par exemple, sous forme de... Il y a une tâche finale à réaliser.
D'accord.
C'est ce qu'on appelle l'approche par tâche.
C'est non, propre à ma discipline. Je crois bien.
Donc, il y a une tâche finale à réaliser et entre-temps, il faut imaginer le scénario... Ben, en tant qu'enseignant, on imagine le scénario et différentes tâches qui vont permettre de réaliser cette tâche finale, tâche de production.
Ouais, bah ça marche, ouais. Voilà. C'est bon.
C'est bien.
Enseigner ? Oui, ça c'est une compétence, mais...
Bah, c'est une activité.
C'est une activité. Oui. Oui ? Micro-enseignement, ce qu'on appelle... D'accord, ouais. Est-ce qu'il y a une production ? Il faut une production quand même, hein. Un portfolio. Oui. 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 Oui.
Je peux vous poser une question par rapport à cette liste. Imaginons en haut, au lieu de compétences, on est savoir, on pourrait aussi... qu'est-ce qui fait la différence ? Souvent, on fait une différence entre savoir et compétences. Mais si je disais, par exemple, caractéristiques des activités favorisant le développement du savoir, je crois que j'aurais à peu près la même liste, ou pas ? Où est-ce que ça changerait ? Parce que intègre, combine et mobilise des ressources variées, c'est vrai aussi pour les savoirs.
Non.
C'est la
base. Si on
doit
transférer les savoirs, toi tu agis pas.
Pour mémoriser les savoirs, peut-être. Pour mémoriser, c'est vrai qu'on aurait tendance à essayer de faire tout ça.
Ben, pour moi, les savoirs, il n'y a pas la mobilisation de ressources variées. On ne va pas faire appel à des...
Ah si, ça c'est le processus d'apprentissage.
Mobiliser des savoirs qu'on a déjà pour en travailler de nouveau.
Oui, mais ça ne va pas être varié. On va prendre quelques ressources. Ça ne va pas être des ressources nombreuses et variées. Vous voyez ?
On dirait que du coup, dans la définition, les savoirs ne servent à rien et les compétences sont ce qui sert. Et c'est bizarre parce qu'un savoir, les seuls savoirs qu'on diffuse et qu'on enseigne, c'est ceux qui servent. Ceux qui ne servent pas, on les enseigne pas, on ne les transmet pas, ils ne sont pas, on ne les diffuse pas dans les livres. Donc du coup, cette définition du savoir qui est inopérationnelle, je trouve que c'est un peu...
Non, c'est pas du tout. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, hein. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, le savoir est une ressource de la compétence. Donc il ne peut pas y avoir de compétence sans savoir. Donc ces savoirs-là, on va les mobiliser. Dans une situation problème, on va mobiliser ce qu'on connaît. Savoir, savoir-faire, savoir-être, donc les ressources internes, et les ressources externes, les pairs, les collègues, Internet, etc. Donc on est obligé d'avoir des savoirs pour pouvoir développer une compétence.
En fait, je crois que ça nous parlerait plus, par exemple, si vous nous donniez des exemples plus proches de la pratique de l'enseignement supérieur dans un domaine particulier, d'un savoir et de compétences liées à ce savoir, par exemple. Parce que c'est vrai que sur le code de la route, c'est quand même très loin de ce qu'on peut rencontrer à l'université ou monter des meubles Ikea. Donc peut-être que c'est ça aussi, c'est qu'on a du mal à se projeter.
D'accord. Bon, comme vous êtes des disciplines très variées, c'est compliqué, mais allons-y. Alors, quelqu'un... Madame.
Pardon,
plus fort, s'il vous plaît.
Si tu connais la formule pour calculer les nerfs, tu as ton savoir. Si tu sais que les nerfs de tel espace, tu as ton savoir-faire. Si tu sais aménager un espace par rapport à tes savoirs et savoir-faire, là, tu es dans la compétence. Je crois. Quelque chose de... Mais si on te demande, du coup, là, tu es dans le mood, dans le aménager, je ne sais pas, tu dois faire des meubles différents, dans un espace différent. Là, tu es dans la compétence. Mais à la base, ton savoir, c'est savoir qu'il y a l'air ou le volume. Je pense.
Oui, oui, oui. C'est quelle discipline, ça ?
La vie.
Ah, ok. Bon, monsieur, vous voulez un exemple ? Vous êtes en quelle discipline ?
Moi ?
Oui.
En maths.
En maths.
Non, mais calculer l'air, ça me donne.
D'accord.
Est-ce que déterminer une primitive pour une fraction rationnelle, est-ce que c'est un savoir ou est-ce que c'est une compétence ?
Je ne veux pas vous répondre.
À quoi ça sert ?
On attend
de l'art de l'intégration. C'est de l'art. Déterminer, déterminer la primitive d'une fraction rationnelle. Est-ce que ça relève du savoir ou est-ce que ça relève de la compétence ?
Effectivement, dans les textes, de dire qu'on n'est pas compétence et d'arriver à la formule,
théorie en maths et en physique, quand est-ce qu'on appelle telle formule à tel moment, on a vérifié que les hypothèses étaient faites, l'applicabilité était vraie. C'est ça, pour moi, biologiste.
Madame.
Je crois que la question qui se pose un peu, c'est celle du sens qu'on va pouvoir permettre aux étudiants de trouver. Et l'intervention là, par rapport aux mathématiques, alors moi je suis en sciences humaines, hein, donc rien à voir, j'ai plein de situations concrètes qui me viennent à l'esprit, en conduite de projets, organisation d'événements, etc. Mais je pense à une expérience qui avait été faite par rapport aux mathématiques. On avait fait visiter à des étudiants la base d'Airbus à Toulouse et on leur expliquait en quoi l'application des mathématiques pouvait... Et du coup, ça prenait sens pour eux. Et du coup, ils avaient une motivation particulière à travailler les maths, quoi. Et à les comprendre. Mm-hmm. Est-ce que ça répond un peu...
C'est pas une... Là, je vois pas où est la compétence qui était chez les élèves. Je vois bien que ça motive ce... je trouve que c'est très intéressant, mais je vois pas où est la compétence qu'on développe dans cette activité-là, justement. On crée des motivations, on crée des...
On met du sens sur les choses. C'est quand même...
Oui, sur de la motivation, mais est-ce que ça, pour moi, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on a dit sur le fait que ça permet d'agir, que ça permet de...
Ben, les mathématiques, vous allez l'utiliser dans plusieurs secteurs. Donc là, vous parliez d'Airbus. Je ne connais pas bien les maths, hein, donc c'est compliqué pour moi de trouver un exemple. Mais comme disait madame... Comment ?
Pourquoi les mathématiques ne devraient-elles que servir à quelque chose ?
Oui.
En électronique, on a des étudiants qui apprennent un certain savoir sur les composants qui existent, qui vont permettre de construire des circuits. Et puis on va avoir un étudiant qui se retrouve en stage en projet. Et puis il y a quelqu'un qui est en écologie, par exemple, qui va le voir et qui dit, moi je voudrais être capable de compter le nombre de bestioles et tel type de bestioles qui va passer dans cette allée forestière pendant 6 mois. C'est-à-dire que l'étudiant est capable de faire la démarche qui ira vers un détecteur. Il va falloir que je choisisse ce détecteur. Il va falloir que j'associe le circuit électronique qui va permettre d'alimenter ce détecteur, qui va permettre de faire le circuit, qui va permettre de récupérer l'information fournie par le détecteur, de la stocker et après de l'utiliser. Ça, c'est la compétence.
Et ses connaissances qui sur le domaine.
C'est-à-dire que pendant qu'il a acquis ses savoirs, il sait qu'il existe des détecteurs, il sait qu'il existe des dispositifs pour faire l'acquisition nationale, mais sa compétence, ça va être finalement de récupérer tous ses savoirs pour en faire un dispositif qui va permettre de...
résoudre de problèmes.
Détecter uniquement les chats et pas les oiseaux, par exemple, qui sont passés sur cette planète. Parce qu'il va la nature. Je ne sais pas si ça peut aider.
Je pense que c'est un bon exemple. Moi, ça me parle bien.
Oui, en fait, le problème, c'est sur la définition des mots. Une compétence, c'est à un instant donné, après elle apparaît, elle disparaît, alors que le savoir, ça existe tout le temps. Et il faut être capable de mobiliser un ensemble de savoirs à un instant donné pour répondre à une problématique donnée qui va disparaître après ou revenir après cette problème. Donc c'est juste un problème de définition de mots. En fait. C'est juste ça.
Bon, vous voyez toute la complexité de la chose. Hein. Alors, on va juste continuer, si vous voulez bien. Donc bon, vous avez mentionné toutes les activités qui permettent de développer la compétence, vous les avez très bien mentionnées. Études de cas, projets, stages, hein, vous l'avez mentionné aussi, débats, problèmes, jeux de rôle, TP, etc. Alors, c'est ce qu'on appelle des situations intégrateurs ou des projets intégrateurs, c'est-à-dire des projets ou des situations complexes qui représentent une situation professionnelle, avec toute la complexité de la situation professionnelle. Si vous faites travailler un étudiant sur un projet, ça va être avec tous les problèmes que peut rencontrer un professionnel sur son lieu de travail. Alors, comment évaluer la compétence ? Et après, on verra les étapes de l'approche par compétence. Bien souvent, l'activité et l'évaluation sont liées. Hein. Vous voyez, là, le projet, bah, c'est à la fois l'activité et à la fois l'évaluation. Pour évaluer la compétence, il faut que ce soit une activité en situation authentique, enfin, du moins le plus authentique possible, c'est-à-dire le plus proche possible d'une situation de travail ou de la vie courante, de la vie familiale, personnelle ou citoyenne. Hein. Il faut que ce soit une tâche qui demande le jugement et l'innovation, c'est-à-dire il n'y a pas une seule bonne réponse. Si vous faites travailler les étudiants sur un projet, il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Il y a plein de façons de construire un robot en mécanique ou je ne sais pas, une œuvre littéraire. Il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Il y a plusieurs bonnes réponses. Ça demande d'accomplir une réalisation, comme je disais. Donc l'étudiant doit produire quelque chose. Ça peut être une pièce de théâtre, un diaporama, comme on l'a vu, un portfolio, un rapport, une présentation, un poster, pourquoi pas. Propose des tâches complexes et favorise, ça c'est très important, favorise la consultation et la rétroaction. Bien souvent, dans les évaluations, on évalue l'étudiant et on s'arrête là. Et je sais que dans le projet Pédaginov à Paris, il y a un enseignant qui disait « moi ça ne me va plus ça ». Parce que les étudiants, ils n'avaient pas compris comment faire, ils étaient en maths aussi, ils n'avaient pas compris comment faire une courbe. Je mettais une sale note, mais l'année d'après, ils n'avaient toujours pas compris. Alors ils ne trouvaient plus de sens à ça. Et quand on est dans une approche par compétences, le retour est très important. L'étudiant, il avance, on donne des retours. Et hop, il progresse, parce qu'on ne peut pas y arriver seul. Donc il y a vraiment des allers-retours, ce n'est pas one shot, tac, t'es compétent, t'es pas compétent. Non, c'est je vais t'accompagner pour atteindre le niveau requis. Alors voilà le bouquin de Préjean, Bernard et Kozanitis établissent un peu une typologie et disent que tout ce qui est QCM, exercice, etc., ça n'évalue pas les compétences, ça évalue les connaissances. Je dis pas qu'il en faut pas, attention, hein. Comme on l'a vu, la connaissance est une ressource de la compétence. Donc forcément, on va devoir continuer à évaluer les connaissances. Mais juste...
C'est évaluation des compétences.
Là, c'est pour évaluer les compétences. Donc pour évaluer les compétences, ce qui est le mieux, mais ça rejoint à ce qu'on a vu dans les activités, hein, c'est tout ce qui est projet, portfolio, stage, parce que c'est en lien avec une situation complexe, une situation professionnelle ou de la vie quotidienne, citoyenne. Oui. Clinique, bon, ça c'est en médecine. Ouais, c'est des cas cliniques. Voilà.
Des cas concrets d'une symptomatologie, etc. Il faut adapter le traitement ou la prise en charge.
Voilà. Merci. Alors, comment mettre en place l'APC version simplifiée ? Vous pouvez très bien dire non, ça me convient pas du tout. Moi, je vais choisir autre chose. Donc c'est vraiment pas, je suis pas ici pour vous dire faites ça. Hein. Alors, je m'appuie sur des ressources québécoises, suisses, etc. Et puis sur mon expérience de ce qui se passe aussi dans les universités, j'ai un peu pioché et j'en ai fait. Bon, à l'université de Lorraine, je sais qu'ils mettent ça en place, par exemple. Donc vous avez la première étape, le référentiel métier. Ensuite, référentiel compétences et référentiel formation. Oui.
Et justement, par rapport au référentiel métier, en gros, on devrait le baser sur les fiches formes, c'est ça ? Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas forcément adaptées à certaines formations.
Oui, bah après, je pense qu'il y a un travail à faire pour l'adapter. Alors, ce qu'on peut faire, ce qui peut être fait, c'est des études sectorielles. C'est-à-dire, on va voir un peu les professionnels pour leur demander bah, où en est un peu le marché du travail, quoi. Parce que... Je pense à une mission que j'ai faite en Mauritanie. Ils avaient fait un master sur l'extraction pétrolière, parce que maintenant, ça explose, quoi. Il y a du pétrole, et donc, bon, ils voulaient faire un master là-dessus. Donc, je suis allée pour évaluer la qualité du master. Mais en fait, c'est bouché, maintenant. Ils ont tellement fait sortir des diplômés qu'il n'y a plus de boulot. Donc, les études sectorielles, ça permet de dire, bah, ouais, c'est bien, mais maintenant, il va falloir se diversifier. Alors, maintenant, ils ont mis pêche... extraction des mines et de la pêche, en plus. Parce que ça sert à rien de faire des diplômés qui trouveront pas de boulot. Bon, là, dans le cas-là, c'est un master pro, donc c'est vraiment très ciblé. Hein. Mais disons, une petite étude sectorielle pour tester un petit peu le, s'il y a encore des débouchés ou dans quel domaine il y aurait des débouchés. Donc on commence à définir le référentiel métier, on fait venir des professionnels de différentes professions, et puis on voit avec eux un peu en quoi consiste leur travail. Donc on fait une liste des tâches, des activités, donc c'est une liste qui va être assez longue, hein. On fait une sorte de brainstorming, tâches, activités, et ça, on va définir les compétences à partir de ça. À partir de toutes ces tâches et activités des professionnels, on va essayer de dégager 5 à 10 compétences. Par exemple, mettre en œuvre un projet d'intervention dans le domaine des APS, exécuter son rôle et ses missions au sein d'une structure, analyser l'activité physique par une démarche scientifique, etc. Ça, ça peut être des compétences. Oui.
Ce qui peut aider aussi, c'est de. C'est pas bête, mais c'est de lire des fiches de poste.
Oui, tout à fait.
Parce que c'est plutôt que de faire venir des professionnels, on peut aussi, mais dans une fiche de poste, on a bien ce découpage des compétences. Et,
oui, ça peut aider. Ça. Après, les professionnels peuvent vous aider dans le sens où ils vont vous dire mais non, mais le secteur-là, voilà, c'est fini. Par contre, le secteur-là est porteur. C'est le petit plus, quoi. Ensuite, référentiel formation, où là, vous allez devoir définir des acquis d'apprentissage. Les acquis d'apprentissage, c'est ce qui va permettre d'évaluer la compétence. Parce que la compétence est tellement complexe qu'on ne peut pas l'évaluer comme ça d'un bloc. Donc on va faire deux choses. On va essayer d'évaluer l'ensemble des compétences par un projet transversal, par exemple. Mais on va devoir décomposer aussi la compétence pour évaluer des dimensions de la compétence. Donc le rôle des acquis d'apprentissage, c'est ça. C'est pouvoir évaluer certaines dimensions de la compétence. Parce que vous imaginez bien que exercer son rôle et ses missions au sein d'une structure, vous n'arriverez jamais avec ça dans le contexte universitaire. C'est pas possible. Donc il va falloir vraiment définir les acquis d'apprentissage. Et les acquis d'apprentissage, on les trouve à trois niveaux. Au niveau du programme. Alors ça, je vais passer. Donc, vous voyez la compétence ici, diriger un chantier. On va dégager les acquis d'apprentissage, qui sont à peu près autour d'une dizaine aussi. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc on transforme les compétences en quelque chose d'évaluable. Et d'adapter au niveau. D'adapter au niveau, si c'est un novice, si c'est un L1, un L2, ça ne va pas être pareil. Un master, ça ne va pas être pareil. Donc ici, pour diriger un chantier, ça va être proposer des décisions au chef de chantier en ayant repéré les différents acteurs et leurs responsabilités respectives. Ça, ok, ça on va pouvoir... Oui.
Du coup, les acquis d'apprentissage, ça serait les aspects de la compétence.
C'est des dimensions de la compétence que l'on va pouvoir évaluer. Donc ici, voilà, on l'adapte au niveau du novice.
J'en regarde quand même l'heure parce que...
Ah ouais. Donc on va...
5 minutes.
Ouais, on va terminer de toute façon là-dessus. Par exemple, gérer un établissement de façon efficace, proactive et participative, ça c'est une compétence, mais c'est tellement complexe, ça vous ne pourrez jamais l'évaluer. Comment on évalue ça? Il faudrait que l'étudiant soit en situation, c'est pas possible. Donc on va décomposer, mettre en place des processus de gestion administrative, des structures, etc. Développer des procédures de gestion de ressources RH. Donc ça va être déjà un peu plus évaluable. Mais ça reste quand même complexe.
Pardon.
Donc, oui.
Quand vous dites complexe, ça veut dire qu'éventuellement, ça peut être évalué dans plusieurs UE ou une fois pour plusieurs UE ou...
J'y viens.
Ah, pardon.
On est passé des compétences aux acquis d'apprentissage au niveau du programme pour pouvoir les évaluer. Mais maintenant, on va les décomposer encore un peu plus pour que ce soit plus précis et plus facile à évaluer. Donc on passe au niveau UE. À partir des acquis d'apprentissage, on va définir les UE. D'accord, on veut arriver à ça. Bah, quel UE il nous faut? Ah bah alors il nous faut un UE là-dessus. Par exemple, gérer un établissement, donc ça c'est la compétence. L'acquis d'apprentissage, c'est de mettre en place des processus de gestion. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on arrive à ça? Bah, il nous faut un UE sur le management appliqué aux établissements scolaires. Il nous faut un stage. Il nous faut une UE, conception et pilotage de projet, etc. On définit les UE. Et donc ensuite, à l'intérieur des UE, on va définir, on va préciser les acquis d'apprentissage. Qui vont être un peu plus précis. Ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de facilité à les évaluer. Oui. Choisir, oui. Oui, choisir, oui. Donc là, effectivement, on utilise les taxonomies. Hein. Non, tous. On commence généralement en bas, mais l'objectif, c'est d'aller en haut, quoi. Ouais. Madame ? Oui, c'est pareil. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours penser à un projet intégrateur qui soit transversal à toutes les disciplines et qui permette aux étudiants de mobiliser leurs ressources acquises. Donc, ce qui est préconisé, entre guillemets, au minimum, c'est de proposer aux étudiants un projet qui puisse utiliser tout ce qu'ils ont appris.
Et quand vous dites projet, c'est individuel ou collectif, le travail ?
Bah, collectif plutôt. Mais après, c'est à vous de voir, hein, mais je pense qu'on mobilise plus de choses lorsqu'on est en groupe.
Et par tous les autres. Parce qu'on voit mal une maquette de formation universitaire être distinguée, pas découpée par des UE de compétences.
C'est pas des UE de compétences, là, regardez.
Des UE, on prend des arguments en commun, pas des objectifs en commun.
Ah oui, tout à fait. Vous pouvez avoir des UE avec des objectifs communs. Et vous voyez ici, c'est très disciplinaire.
En fait, si je peux me permettre de répondre, je pense que ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que dans une UE, on donne plusieurs savoirs. D'accord. Et que, donc ça, c'est l'ensemble du savoir. Et il est parti de mathématiques. Et on a l'ensemble des compétences. Mais sauf que les compétences, c'est un ensemble, un sous-ensemble des savoirs. Donc c'est par les UE qui vont transmettre ces savoirs-là qu'on va redistribuer les compétences.
Oui,
donc,
c'est ça.
Plusieurs UE vont participer à la même compétence.
Oui. C'est pas cloisonné. Ouais. Et donc, vous avez une troisième étape qui est au niveau du cours. Nous avons défini nos UE. Nous avons défini nos acquis d'apprentissage au sein de chaque UE. Maintenant, on va définir quel cours. Hein, pour chaque UE, quel cours. Quel cours va nous permettre d'atteindre l'acquis d'apprentissage de tel UE ? Alors, ouais. Donc, et au niveau de chaque cours, l'enseignant va définir ses objectifs. Mais toujours garder en mémoire les compétences du début, hein, et les acquis d'apprentissage du début, pour que tout soit lié et cohérent. Donc voilà, je termine là-dessus. Au sein du cours, il faut forcément de la pédagogie active, que ça favorise les apprentissages en profondeur, hein, pas la rétention, c'est-à-dire l'étudiant apprend par cœur et récite, ça ne fonctionnera pas. Il ne va pas pouvoir transférer ça dans d'autres cours ou au monde du travail. Il faut que ça favorise sa capacité de réfléchir sur sa manière d'apprendre. Comme je le disais, je préconise aussi, mais l'Université de Lorraine le fait aussi, par exemple, c'est d'avoir une situation ou un projet intégrateur transversal à toutes les disciplines qui va vous permettre vraiment d'évaluer la compétence dans toute sa complexité. Ce qui nécessite une grille d'évaluation critériée. Ça fera partie de l'objet d'un autre... Et bien sûr, dans le cours, il faut que les cours soient alignés. L'alignement pédagogique, qu'on ne peut pas voir là, mais vous l'avez sur mon site, de manière très pratique, j'ai tout détaillé. Donc sur mon site qui s'appelle Coopération universitaire, vous tapez Coopération universitaire Laetitia Gérard, et il y a un article qui s'appelle l'alignement pédagogique. Oui, oui, c'est la cohérence entre les objectifs d'apprentissage, les activités et l'évaluation. Par exemple, si mon objectif c'est que les étudiants soient capables de définir des mots-clés, bah, dans l'activité, je ne vais pas faire un débat ou des jeux de rôle, ça n'a pas de sens. Mon objectif c'est juste qu'ils soient capables de définir des mots. Donc, je vais mettre en place quelque chose de bas niveau cognitif. Par exemple, je vais simplement leur lister les mots-clés, quoi, puis les définitions. Et à l'évaluation, c'est pareil, je ne vais pas faire une étude de cas. Il faut que ça soit cohérent. Si mon objectif, c'est qu'ils soient capables de définir ces mots-là, bah, je vais leur donner les mots, ils les définissent. À l'inverse, si mon objectif, c'est qu'ils soient capables de développer l'analyse critique, bah, il faut que mon activité soit en lien avec l'objectif. Donc l'activité, je vais faire des débats, des analyses de texte, pour qu'ils développent ça. Et l'évaluation, il faut que ça soit en lien. Il faut que je puisse évaluer s'ils ont développé l'analyse critique, auquel cas je vais faire une analyse de texte ou critique d'ouvrage, ou j'en sais rien. Voilà. C'est ça, c'est l'alignement entre les objectifs, les activités et l'évaluation. La cohérence. C'est bon ? Vous avez pas mal la tête ?
Non.
Bon, on lève la séance alors ? Quelques questions ? Ouais.
Il n'y a pas une seule réflexion sur le fait que les étudiants apprennent différemment. Certains veulent quelque chose de structuré. Ils veulent un fonds magistral, ils veulent que ça soit, ils veulent avoir d'abord les choses dans l'ordre et après ils vont les apprendre pour les. Et pour d'autres, ils ont envie de faire la fonds parce que ça peut après ça sert, ils ont besoin de ça. On ne voit pas la moindre chose de ça dans votre fait. Et je trouve ça extrêmement lié.
Bon, là, j'étais limitée par le temps. Hein. Je vous avoue que généralement, c'est des choses que j'aborde, mais là, franchement, déjà rien que la PC, ça prend du temps. Mais merci pour votre tour, madame. Oui.